musique. Musique et moi.
Adrien Goetz.
Priscille Lafitte. France Musique.
Il n'y a pas que le Louvre dans la vie.
Bonjour.
Bonjour Priscille.
Adrien Goetz, bienvenue dans Musique et moi. Vous êtes historien de l'art, normalien, romancier aussi, membre de l'Académie des Beaux-Arts, directeur de la bibliothèque Marmottan, lieu de résidence pour chercheurs et artistes. Et dans votre dernier ouvrage, Mes musées en liberté, paru chez Grasset, vous passez à la loupe un ensemble de musées ou de muses disséminées en France. Vous en faites le tour en amateur d'art éclairé, bien évidemment, comme témoin aussi de la vie culturelle de ce pays, loin du Louvre et loin de ces musées stars qui occupent Paris et qui ne s'en portent pas plus mal, pas si mal, ou est-ce que ces musées souffrent de l'ombre portée par les grandes institutions parisiennes ?
Ben, ils travaillent souvent ensemble et c'est une bonne chose. Je voulais simplement mettre l'accent sur ces trésors de la France. On est tous voisins d'un musée, on a tous grandi dans une ville où le musée est intéressant, on a tous appris à regarder. Grâce à ces musées, qu'on appelait autrefois de ce terme insoutenable, de musées de province, mais en réalité c'est des musées de grandes villes qui peuvent travailler très bien les uns avec les autres. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à mon lecteur en le prenant par la main, en lui disant on va aller voir telle œuvre, le Pérugin du musée de Lyon, puis on ira voir le Pérugin du musée de Caen. Et comme ça, on n'est pas obligé de passer par Paris. Et quand j'entends le Chopin que vous aviez choisi pour commencer cette émission, je vois tout de suite...
On est plutôt à Nohant qu'à Paris.
Ah, on est pour moi à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation MAG, où j'ai eu la chance d'entendre Alain Planès qu'on reconnaît là, et les quelques moments de silence qui suivent cette interprétation par Alain Planès, que j'admire énormément, c'est peut-être cette note bleue dont parlait George Sand à Nohant, quand elle recevait Chopin, le moment où il n'y a plus de musique, mais on est encore porté par le rêve, on entend encore quelque chose. Et quand on sort d'un musée ou quand on sort de la Fondation Max, c'est un peu ça. On emporte avec soi des images, des ombres, des lumières, et ça continue en nous.
Alors, on entendait Alain Planès dans la 13e étude en la bémol majeure de Frédéric Chopin. Donc, pas sur n'importe quel piano, puisqu'il s'agit d'un piano Pleyel datant de 1836, sur lequel le compositeur Chopin aurait pu lui-même jouer. Il aimait, paraît-il, la sonorité assez douce de cet instrument. Est-ce que jouer Chopin sur ces instruments, comme le fait Alain Planès, c'est un acte qui a du sens à vos oreilles? Est-ce que vous recherchez quelque chose de particulier dans ce son-là?
C'est un voyage dans l'histoire, dans le temps. Oui, moi j'ai la chance d'être allé chez Alain Planès. Il a deux instruments anciens qui sont fabuleux.
Un Broadwood et un Pleyel, oui.
Bravo, voilà, j'aurais pas su le redire. Et il nous transporte à une autre époque et en même temps, il est tellement d'aujourd'hui. Il est vraiment, quand on l'entend en parler après, il plaisante, il est très facétieux, Alain Planès. Et quand il se met devant ses instruments, ben oui, il est un autre. Et on entend Chopin et puis ensuite il s'arrête et il me parle de Braque, qu'il a bien connu. Il me dit, tu n'es pas allé à Major, qu'il faut y aller, il faut aller voir l'atelier de Braque. Et moi, j'y suis allé. Donc il y a un lien entre l'interprète, le compositeur, et puis les musées que j'aime tellement, et l'un me renvoie à l'autre sans que ce soit forcé. C'est-à-dire qu'il y a eu une mode à une époque où on forçait les visiteurs de musées à avoir de la musique dans les oreilles. Bon, et ça, c'était un peu plaqué, un peu artificiel, ça a un peu cessé ce genre de choses. Aujourd'hui, dans les musées, on préfère aller prendre des cours de yoga, s'initier à la cuisine régionale. Mais la musique dans les musées, c'est une vraie question. Oui, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas?
On va y revenir.
Il y a les deux écoles possibles.
Parce qu'avec vous, Adrien Goetz, on l'entend d'emblée, ce portrait musical va prendre place dans un musée, aura pour voisinage des peintures, illustres ou oubliées. Nous verrons si vieilles partitions et toiles anciennes ont un même parfum, tour à tour suranné ou enivrant, s'il y a une même délicieuse accoutumance à cet art visuel comme à la musique, et si l'un et l'autre suscitent des questionnements similaires sur notre rapport au temps et à la beauté. Mais voici déjà une silhouette s'avancer et s'installer au clavier, c'est Madeleine Malraux. Cette pièce s'intitule « Feuillet d'album ». Elle est signée Alexandre Scriabine. Et si Madeleine Malraux est au piano, que vient-elle faire?
Justement, c'est pour moi un grand souvenir. J'ai recherché la date dans mes agendas en papier pour l'indiquer dans mon livre sur ce Tour de France des musées. C'était au musée Malraux du Havre. Alors, j'ai pas retrouvé l'enregistrement, je crois qu'on en a peut-être même pas. Où en 2005, Madeleine Malraux avait joué dans le grand vestibule du musée Malraux du Havre, ce grand cube de verre, vous avez vu ce musée, il ouvre sur la mer, c'est comme s'il n'y avait pas de mur, donc c'est absolument extraordinaire. Et puis il y a Monet, il y a Boudin, il y a toute la Normandie qui est là aussi. Et cette dame née en 1914, Madeleine Liou, qui avait été premier prix au conservatoire et qui était devenue Madame André Malraux, donc on la voyait en photo avec Jackie Kennedy devant la Joconde, très élégante. Elle était toujours très élégante ce jour-là. Elle s'est assise au piano et là, ça a été un moment magique. J'en ai parlé avec sa petite fille, Céline, qui a écrit un très beau livre sur sa grand-mère. Cette femme était extraordinaire. Elle était à l'aise dans le monde des musées, évidemment, bien sûr, mais elle connaissait la peinture, elle avait bien connu Balthus, elle était passionnée de musées, elle était d'une grande culture, elle était la seule à pouvoir parler de l'humour d'André Malraux, par exemple, qui existait vraiment et qui n'est pas forcément ce sur quoi les Malraussiens mettent l'accent. Et là, ce jour-là, bah, c'était parfait. C'est-à-dire que elle était heureuse de défendre le nom de Malraux à travers ce musée. Alors qu'elle l'avait quitté, enfin, je ne vais pas vous raconter son histoire, mais c'était une très forte personnalité. Elle est une femme très indépendante et admirable, et vous l'avez entendu, elle est formidable dans Scriabine. C'est vraiment c'est une excellente pianiste. Donc ça reste pour moi un souvenir lié au musée imaginaire, puisque c'est dédié à Madeleine. Et au musée réel, qui était ce soir-là le musée Malraux du Havre. Et à chaque fois que je reviens au Havre, j'ai cette image et j'en ai pas retrouvé de photo. Une de vos collaboratrices dans votre équipe m'a dit qu'elle avait gardé le programme, car sa mère y était.
Maud Nourry.
Maud a gardé le programme, donc on retrouvera. Enfin, moi, je crois que j'ai retrouvé la date exacte, mais c'est resté fixé dans ma mémoire.
On va raccrocher les pièces du puzzle. Est-ce que vous écoutez autrement la musique lorsqu'elle s'inscrit dans un musée?
Non, je crois pas. Je crois qu'il faut pas forcément tout mélanger. Il y a des associations d'idées, bien sûr. Hein, les interprétations d'Alain Planès se souvenant de Braque dans le décor de la Fondation Mag avec les Giacometti et tout ça. Il y a une harmonie, évidemment. Il y a la correspondance des arts, cette vieille idée du romantisme, hein, le dialogue des muses. Parfois, ça marche. Mais parfois, c'est artificiel et on n'en veut pas. On n'a pas envie forcément d'avoir de la musique au musée.
Ça dépend de quoi ? Que cette alchimie fonctionne.
Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on nous l'impose. Il faut être capable de décaler les choses, de se dire qu'on va, je sais pas, pendant une année, moi je n'ai écouté que des cantates de Bach. Et en décalant les circonstances, c'est-à-dire que je n'étais pas dans un recueillement permanent. Je me souvenais de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, où l'héroïne écoute des cantates de Bach dans son bain moussant. Bon, il faut utiliser la musique à contre-emploi et se dire qu'on peut l'aimer dans toutes les circonstances et qu'on peut être très ému par une musique très joyeuse de Rossini et qu'on peut, voilà, qu'on peut s'amuser à avoir ce genre de petits décalages. Et les musées, ils sont propices.
S'il est vrai, que tu m'aimes, mais j'entends que tu m'aimes bien. Je ne crois pas que les rois m'aiment, est un bonheur pareil au mien. Au prix des grâces.
Un enregistrement aussi peut peut-être se visiter comme un musée, Adrien oui. Goetz. Par exemple, cet enregistrement qui date de 1974, du baryton québécois Bruno Laplante, de la pianiste Jeannine Lachance, qui s'attachaient tous deux à faire connaître la mélodie française, notamment par cet album qui présente les mélodies de Reynaldo Hahn. Il y a aussi d'autres albums consacrés à Massenet, etc. Si vous souhaitez en faire entendre cet enregistrement, c'est précisément parce que cet album a été oublié ?
Non, parce qu'il y a la pureté de la langue française. L'idée que ce sont des Québécois qui nous ont fait redécouvrir les mélodies de Reynaldo Hahn, ça m'émerveille, je trouve ça formidable. Et puis Reynaldo Hahn, on l'avait mésestimé. On pensait que bon, c'est le cercle des amis de Proust, ça paraissait une musique un peu anecdotique.
C'est l'auteur de Ciboulette.
Ciboulette, voilà, voilà. C'est des choses
Regardez
légères.
De haut. Sans...
Voilà, il était un peu dédaigné. Et je pense que cet enregistrement a relancé un peu les choses. On en a vu d'autres depuis. Moi, j'ai chez moi le coffret de Tassis Christoyannis avec Jeff Cohen au piano, où on a toutes les mélodies, et j'en ai découvert que je ne trouvais nulle part ailleurs. Par exemple, le Cantique de Jean Racine par Reynaldo Hahn, ça c'est un trésor, on aurait pu l'écouter aussi ensemble. C'est le goût pour une musique ancienne, le goût de l'époque de Reynaldo Hahn, je veux dire, pour une musique ancienne avant le renouveau avec les baroqueux et toute la suite, des musiques sur instruments anciens, on en parlait à l'instant. Il y a là un goût avec les fêtes de Robert de Montesquieu à Versailles, avec un goût pour les instruments anciens, les mélodies oubliées, Reynaldo Hahn qui va relire ce poème de Théophile Deviau et qui compose cette musique en se transportant lui-même à une autre époque. Donc quand on entend ça maintenant, on a un double effet de décalage que je trouve très séduisant, de décalage chronologique. Vous parliez d'un musée vocal, c'est exactement ça. C'est spéculaire, on redécouvre Reynaldo qui lui-même redécouvre les musiques du XVIIe siècle.
Et qui lui-même s'inscrivait aussi dans la lignée de Ravel, de Debussy.
Exactement.
Qui redécouvrait Couperin, qui
voilà.
redécouvrait ses fin XVIIe, début XVIIIe.
Et d'une certaine façon, l'arrivée avec William Christie et puis ses élèves, ses imitateurs, ses concurrents, c'est après. Mais c'est la suite de cette histoire, je pense, l'arrivée des baroqueux au devant de la scène.
Oui, elle n'arrive pas de nulle part.
Voilà, il y a un terreau.
Il y a une Geneviève de Chambure aussi qui fait le lien entre ces mondes.
Qui les encourage, qui avec sa collection d'instruments. Enfin, c'est des choses dont William Christie parle aujourd'hui avec émotion. Et c'est comme ça que moi, j'ai redécouvert toute cette musique. C'est exactement avec des yeux qui pourraient être des yeux de visiteurs de musées. Tout en me disant que c'est aujourd'hui que Tassis Christoyannis, c'est un contemporain et sa voix est une vraie voix d'aujourd'hui. Donc aucun passéisme là-dedans, mais la fascination pour les siècles.
Allons, allons, accourez tous, si belle Marie descend. Allons, allons, accourez tous, si belle Marie descend. Allons, allons, accourez tous, si belle Marie descend. Que dans nos concerts les plus doux sont dans sa prise de s'entendre.
Sur l'univers entier, son pouvoir doit s'étendre.
Les dieux suivent ses lois et craignent son courroux.
Quels honneurs, quel respect le doit.
No!
aimable va devenir votre époux. Tout parle d'amour pour vous.
Il est vrai, je triomphe et j'aime ma victoire. Quand la vue fait régner et tu la plaidras bien, pour vous, Attis, vous n'aimez rien. Ivre en fait de gloire,
l'amour fait trouver si de douleur. Souvent si douceur sans mortelle, il ne faut regarder les peines que comme on voit aimable fleur. J'aime les roses nouvelles, j'aime à les voir sans pays. Sans leurs épines cruelles, aimerais la lèpre. Sans leurs épines cruelles, aimerais la lèpre.
Quand le péril est agréable, le moyen.
Musique, musique et moi, Priscille Lafitte.
C'est bien le renouveau d'intérêt pour les musiques baroques que nous entendons ici. En 1987, Lattis de Lully, avec la voix ici d'Agnès Mellon en Sangaride. C'est le renouveau d'intérêt non seulement pour ces musiques, mais aussi pour tout l'instrumentarium du grand siècle. Et donc qui cumule en 1987 avec cette recréation d'Attis de Lully, un opéra qui date de 1676, donc revisité par les Arts Florissants, emmené par William Christie. Et je ne compte plus les invités qui ont été marqués par cette Attis de Lully, encore tout dernièrement Laure Murat, ce même micro, qui elle-même aussi était fascinée par Reynaldo Hahn et faisait un lien aussi entre ces mondes. On est à quel niveau de restauration d'art là dans les années 80?
On est dans la réinvention. Et ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai un souvenir, j'étais lycéen, donc c'est un peu avant cet enregistrement. Je l'avais vu au théâtre de Caen. Je suis né à Caen, j'ai appris à aimer l'art dans les salles du musée des Beaux-Arts de Caen. Et il y avait à l'époque les Arts Florissants en résidence. Ça a duré de nombreuses années. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais c'était vraiment très bien. Et j'avais été extrêmement séduit. On n'avait jamais vu de choses pareilles. Les costumes, les décors, la mise en scène de Villégier. Il y avait peut-être même la compagnie Rie et Danserie qui montrait de la danse du temps de Louis XIV. Et c'était vraiment moderne. C'était l'actualité de ces années-là. Et je l'ai revu ensuite au théâtre royal, à l'Opéra royal de Versailles, et je me retransportais dans mes souvenirs de lycéen enchanté. Et quelques années après, j'ai eu la chance d'écrire une nouvelle à la demande de William Christie pour son album Le Jardin de Monsieur Rameau, qui est le Jardin des Voix. Vous savez, chaque année, il choisit, il y a un jury qui se réunit, on choisit les voix de demain. Et là, c'était une des premières éditions, peut-être la quatrième ou la cinquième. Et donc, j'avais raconté dans le jardin du château de Canon, en Normandie, une fête imaginaire. Et c'était associé à ce Jardin des Voix. Et j'étais allé à la création de tout cela à l'Opéra Royal et ça m'avait ramené à ces années où j'apprenais tout en écoutant tout cela sans imaginer qu'un jour je les rencontrerais. Voilà.
Mais il y a un équivalent en histoire de l'art pictural de ce renouveau d'intérêt pour même c'est plus qu'un renouveau d'intérêt, c'est décapé, c'est carrément.
Oui, ben on retrouve sans cesse des artistes. On va découvrir bientôt au Louvre Guillaume Guyon-Lethière, par exemple. Grand ami d'Ingres, artiste métis, qui a été directeur de l'Académie de France à Rome, qui a été un personnage très important. On le connaît surtout aujourd'hui par le magnifique tableau « Le serment des ancêtres » qu'il a envoyé à la République d'Haïti, avec ses deux personnages, Pétion et Dessalines, qui prêtent serment sur les droits de l'homme. C'est un tableau militant entre les deux abolitions de l'esclavage. Pour les métis, les anciens esclaves, Lethière a été esclave pendant toute sa jeunesse. Voilà un artiste, même si ses grands formats sont dans le salon de nom au musée du Louvre, sur lequel on avait somme toute assez peu travaillé, et qui est réapparu quand son tableau, après le tremblement de terre d'Haïti, a été restauré au laboratoire du Louvre. Donc oui, les musées sont aussi des machines à faire apparaître des fantômes et à nous rendre contemporains de silhouettes qu'on avait vues s'éteindre ou s'effacer.
Et qui rééclaire l'histoire.
Je pense, oui, bien sûr. Donc les musées, c'est la couverture de mon livre, sont faits non pas pour qu'on y aille avec une loupe, mais avec des télescopes. Hein, c'est la photo de Karen Knorr que j'ai choisie pour la couverture. C'est pour nous aider à voir plus loin, hein, et à voir dans le passé, à voir aussi notre avenir. Hein. Que deviennent les musées aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils évoluent? Je souhaite que les visiteurs ouvrent un peu plus les yeux. Voilà.
Thank you.
Adrien Gutz, vous venez de nous dire que vous avez grandi à Caen, puisque oui. Vous avez vu une représentation d'Atys de Lully avant même les dates parisiennes à l'Opéra Comique. Caen, donc, ville de votre enfance. D'ailleurs, vous dites du musée des Beaux-Arts que c'est le musée de votre enfance à vous. Comment s'est affûté votre regard et votre oreille?
Mais ensuite, on m'a mis en prison. Je me suis retrouvé interne en prépa. C'était pas très drôle. Fallait beaucoup travailler. Fallait faire du latin, du grec. C'est le latin et le grec, ça m'avait privé de l'enseignement de la musique au collège et au lycée. J'ai jamais eu droit à la flûte à bec. J'étais vraiment frustré, privé. Et je me suis retrouvé interne dans un grand lycée. Et là, dans mon couloir de l'internat, il y avait un garçon un peu fou, je pense, qui était un passionné de musique. Alors, il chronométrait les mouvements des symphonies. Il disait cette interprétation-là, ce concerto pour basson de Mozart qu'on vient d'entendre. Là, ça dure 2 minutes de trop, le tempo est pas le bon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça qui... Alors, il s'appelait Christian Merlin.
Ah bon ?
Oui. Et donc, bien connu de France Musique, et je l'écoute toujours sur France Musique. Et en réalité, moi, j'ai fait ma formation musicale par France Musique.
Par Christian Merlin ?
Par Christian Merlin. Non, à l'époque, il était étudiant avec moi, mais par Antoine Goléa, oui. Le soir à la radio. Donc, France Musique joue un grand rôle, encore aujourd'hui. Ceux qui écoutent au cœur de l'orchestre, ceux qui écoutent votre émission.
Le dimanche matin.
Ben, j'espère, oui.
Le bac du dimanche.
Découvrent énormément de choses, et c'est là que j'ai formé mes premiers goûts musicaux.
Parce que dans l'enfance, vous n'avez pas été amené ni à jouer d'un
instrument.
Si,
mes parents avaient beaucoup de disques, mais j'ai jamais eu d'instrument et je me sens très bête de ne pas savoir lire une partition, de pas. Mais je me venge en écoutant beaucoup de musique, en allant à la Roque d'Anthéron, en allant écouter du Rossini à Pesaro. Voilà, ce genre de choses me comble.
Che mai pensar che dir, tutta incertezza onor, io barbaro martire, non lo provai finor, più barbaro martire, provai finor.
Come parlar che dir, pace mio te gioco, si può soffrire, si barbaro dolore, ai no si può soffrire, si barbaro dolore.
Sorte spietata, che si può perdere, si barbaro
che dir tutto già detto a e mai pensa che dir tutta incertezza a io barbaro matire non lo provo.
Si, 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 si
Nous sommes à Pesaro, en Italie, le 9 août 2009. C'est une captation du festival Rossini de l'opéra Zelmira, avec Kate Aldridge dans le rôle-titre et puis Juan Diego Flores à ses côtés. Nous voici bien dans l'univers rossinien avec ce duo. Peut-être êtes-vous dans le public, Adrien Goetz?
Pas cette année-là, mais Juan Diego Flores a été découvert en fait au festival de Pesaro. Et c'est un festival merveilleux. J'y suis allé plusieurs fois, notamment à l'invitation d'Olivier Descôtes, qui a pris les rênes du festival de Pesaro pendant une période. C'est l'anti-Bayreuth, ou plutôt pour nous les rossiniens, c'est notre Bayreuth. Et ça, Pesaro, c'est une petite plage merveilleuse, il y a un musée incroyable, il y a la maison de Rossini, mais il y a aussi le musée où il y a un des plus beaux tableaux de Bellini que je connaisse, et qui est une palla d'hôtel avec des panneaux de près d'elle extraordinaires, enfin il faut y aller. Et puis surtout, le petit théâtre de Pesaro, qui est une bonbonnière faite pour Rossini. Et après, vous allez à la plage, vous allez sur la place et vous retrouvez les chanteurs, les interprètes. Il y a une très bonne ambiance, c'est comme ça qu'on peut bavarder et choisir des glaces avec Sacripanti, qu'on retrouve ensuite à la baguette à l'Opéra de Paris. Il y a une atmosphère merveilleuse et surtout, c'est un endroit où on peut entendre des opéras de Rossini qu'on n'entend jamais ailleurs. Moi, j'achète les coffrets de disques, je suis encore fait partie de ceux qui achètent des coffrets de disques, et ceux de Pesaro, je les collectionne parce que c'est vraiment, ce sont des trésors. Pourquoi ? Parce que cette musique extrêmement joyeuse, trop joyeuse, dont on n'est pas obligé d'aimer, moi, m'émeut. C'est-à-dire qu'il y a une tension peut-être nerveuse ou dans cette joie exacerbée qui a comme conséquence me plonger dans une sorte d'émotion, de rêverie romantique.
Mais alors, vous avez été initié à ça?
Ah non, je ne crois pas. C'était mes cassettes quand j'étais lycéen. J'ai toujours trouvé que Rossini est très au-dessus des autres. Très au-dessus, et même des autres musiciens joyeux. Quand on a en tête un morceau d'Offenbach, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait autre chose. J'ai aimé Semiramis, Tancred, la Donna del Lago, ou bien découvrir à Pesaro Adriano in Siria, par exemple. On connaît d'autres opéras sur ce thème, mais Rossini en a fait un, on ne l'entend que là. Donc c'est vraiment l'enchantement de l'Italie, et cette petite ville tellement parfaite, et cette proximité surtout avec les interprètes, ça c'est inoubliable.
Ah, vous y avez forcément entendu Karine Deshaies. Oui, la voici dans une œuvre beaucoup moins connue, Fausto, de Louise Bertin.
Si rivolse dei legisti e filosofi le carti, studiai teologia pur troppo, o quale, quale de tanto sodor frutto raccolsi, dopo 10 anni più coro chiamò. Maestro e dottor d'ogni scienza,
Merci Adrien Goetz de nous faire entendre cette partition qui avait été complètement oubliée, cet opéra Fausto de Louise Bertin, grâce au travail du Palazzetto Brusane, qui exhume ainsi des partitions oubliées, les fait jouer par les plus grands interprètes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ici Karine Deshaies, Christophe Rousset, les talents lyriques. C'est un peu là où la musique est unique, en la revisitant, on la recrée.
Ben, l'équipe du Palazzetto Brusane fait des choses extraordinaires, grâce à Madame Bru qui veille, grâce à l'équipe qui est là, avec Alexandre Gradvicki, avec tous ceux qui publie aussi des petits livres, albums, qui sont à chaque fois des études sur des compositeurs oubliés. Et Louise Bertin, vraiment, il était temps qu'on la redécouvre. Parce que Louise Bertin, alors, elle, son père est au musée, puisque c'est le monsieur Bertin d'Ingres. Elle est la fille de monsieur Bertin, son père est au Louvre. Et elle était l'enfant chéri du salon des Bertin, qui était un lieu d'émulation intellectuelle à cette époque. Victor Hugo a donné un livret pour elle. Victor Hugo, qui ne voulait pas qu'on dépose de la musique le long de ses vers, écrit La Esmeralda, d'après Notre-Dame de Paris évidemment, pour Louise Bertin. Et la musique de Louise Bertin, ensuite, a été déjà de son temps. En fait, on lui faisait payer d'être la fille du directeur du journal des débats, donc il y avait des cabales. Ses œuvres étaient parfois huées, mais parce qu'on faisait payer ça à son père. Elle était une jeune femme en situation de handicap. Elle avait eu la polio, donc elle avait des béquilles. Elle n'incarnait pas du tout la gracieuse jeune fille de l'imagerie romantique. Et elle avait une énergie formidable. Vous avez entendu ce qu'on vient d'écouter, là. C'est vraiment une compositrice. On dit qu'on manque de compositrices. Eh bien, je crois qu'on n'a pas encore enregistré tout ce qu'a écrit Louise Bertin. Elle est faite pour ce Palazzetto Brusane qui sont en train de nous faire redécouvrir un continent englouti qui est la musique française entre Grétry et Berlioz. Hein, donc les machos disaient, Louise Bertin, Berlioz l'aide un peu. C'est pas sûr, on n'en sait rien, on n'a aucune preuve de ça. C'est les mauvaises langues des années 1830, mais il n'y a aucune raison qu'on ne l'écoute pas aujourd'hui. Et le Palazzetto Brusane nous fait entendre Uta de Méhul, par exemple. Voilà des choses complètement oubliées. Les Abencerrages de Cherubini, tout ça, c'est des disques. Moi, je les achète quand ils paraissent. Et cher, d'ailleurs. C'est tout à fait cher. Et j'en suis comblé. Hein. Ils ont réenregistré des Reynaldo Hahn, justement. Hein. Oh, mon bel inconnu, l'île du rêve, tout ça. Ils continuent le travail que les baroqueux avaient commencé et avaient arrêté avec Gluck, au fond. Et là, c'est la suite.
Alors, les liens entre Louise Bertin et Berlioz, il faut aussi souligner que la première version des Nuits d'été de Berlioz, la version chant piano,
vous avez raison, lui est dédiée absolument.
Pour que, voilà.
Voilà. Donc elle a compté dans l'univers musical des années romantiques.
Courant le ton et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, Courant le ton se mirliflore là-bas au fond du corridor. Courant le ton et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, Courant le ton se mirliflore là-bas au fond du corridor. Oui, ce soir, quand il se fera tard, écoute dans ta folie, mais ceci tu n'entends pas par hasard. Ce pas, ce joli pas, ce petit pas. Tu n'entendras pas Nicolas, non, tu ne l'entendras pas. Tu n'entendras pas Nicolas, non, tu ne l'entendras pas. Non, tu ne l'entendras pas, non, tu ne l'entendras pas. Ce petit pas, ce petit pas, ce petit pas, ce petit petit pas, ce petit 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 pet don. Et de ce soir, dans la chambre au fond du couloir, logeant le don, se mirent les fleurs, là-bas au fond du corridor.
Qu'en faisant des rêves de gloire, tu te dis, je serai grand du
quoi s'y venir dans la nuit noire.
Voici venir Paul Boum et Puc.
Voici venir Paul Boum et Puc.
Voici venir Paul, voici venir Boum.
Voici venir Paul,
voici venir Puc.
Oui, Paul Boum, Puc.
Oui, Paul Boum, Puc.
Paul.
Dans la chambre au fond du couloir, logeant le don, se mirent les fleurs, là-bas au fond du corridor.
Logeant le don, se mirent les fleurs, là-bas au fond du corridor.
Là-bas au fond du corridor, là-bas au fond du corridor, logeant le don, là-bas au fond du
C'est François Leroux, Franck Le Guérinel, Éric Ruchet qui forment le trio des conspirateurs dans la Grande Duchesse des Gerolstein de Jacques Offenbach. Avec vous, Adrien Goetz, j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous entendez du 19e siècle à l'écoute de Jacques Offenbach.
C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser de toute la journée. Là, vous avez commencé avec ça au petit déjeuner et vous avez, et puis vous pouvez écouter la suite. C'était la mise en scène de Laurent Pelly, c'était très joyeux, c'était vraiment un grand moment de théâtre aussi et d'opéra. Felicity Lott incarnait la Grande Duchesse. Encore une fois, c'est des versions qui, pour moi, ne vieillissent pas. Hein. On est vraiment... On est emporté. Alors, il n'y a pas cette émotion que je ressentais tout à l'heure chez Rossini, mais ça, vous l'avez dans l'oreille et ça ne vous quitte plus.
Mais pourquoi vous l'avez dans votre musée musical à vous? Parce que c'est un paysage qui vous intéresse de revisiter régulièrement?
Oui, c'est l'éclectisme du 19e siècle. Mmh. C'est ce que je décris dans mon livre à propos du musée Condé de Chantilly. Vous êtes assailli de chefs-d'œuvre de tous côtés et vous êtes là comme dans une exposition universelle. C'est le Paris de cette époque et puis c'est aussi les souverains étrangers en visite. Enfin voilà, la Grande Duchesse incarne quelque chose avec le prince Paul, la Gazette de Hollande, enfin, on n'oublie pas tout ça et c'est des musiques qu'il faut écouter en revenant du musée d'Orsay. Hein, on est vraiment, c'est fait pour le musée d'Orsay et puis pour bon nombre de musées où le 19e siècle est encore très présent partout dans toutes les régions. On peut aller au musée de Picardie à Amiens, dans le grand salon rouge du musée de Picardie. Il arrive qu'on déroule des grands formats, le conservateur aime faire ça, il les fait restaurer et on redécouvre des œuvres qui ont passé plus longtemps dans les réserves que sur les cimaises. Et aujourd'hui, tout cela vibre à nouveau et c'est magnifique. Et ces vibrations, ben, on les a dans la musique d'Offenbach et dans cette Grande Duchesse.
Mais vous pourriez vous intéresser aux musiques sans vous intéresser à l'art pictural ou inversement. Qu'est-ce que vous y voyez?
C'est pas toujours dans les musées, ça peut être dans les églises, ça peut être les improvisations à l'orgue le soir à Saint-Étienne-du-Mont, ça peut être... Voilà, il y a des moments où cette harmonie arrive à naître et parfois par surprise sans qu'on l'ait organisé.
Mais vous les cherchez à titre personnel,
ce que je comprends. Je sais que je les apprécie et que je les rencontre assez souvent, oui.
Thank you.
Goethe nous proposait d'écouter un extrait de la messe romane de Thierry Esquèche avec Thomas Hospital à l'orgue. Mais quel est pour vous, pour poursuivre la conversation qu'on avait juste précédemment, le concert idéal à vos oreilles, ou peut-être la journée idéale, les jours où on va étendre les possibilités
en entre un parcours. Quand on entend Hospital jouer du Esquèche, ça peut être la fin d'une journée idéale, ça peut être dans la nef de Saint-Eustache où il y a des œuvres d'art, où on a un tableau de Simon Vouet, on est assis sur des bancs dessinés par Constance Guisset, où il y a un curé, Yves Trocheris, qui aime l'art contemporain avec talent et avec goût, et ça c'est rarissime. Et là, au fond, on est très bien, et on est dans l'art d'aujourd'hui. Thierry Esquèche, moi je le côtoie souvent, il vient le mercredi à nos réunions de l'Académie des Beaux-Arts. C'est un bon vivant, on plaisante, on va boire une bière, et puis il compose une musique sublime, hein, vraiment. Et là, ce qu'on vient d'entendre est magnifique. Cette idée que ces compositeurs d'aujourd'hui peuvent être des témoins, des amis, des interlocuteurs, c'est très important. C'est très important et ça réconcilie tout. On est vraiment dans de l'architecture, dans de la peinture, à écouter de la musique. Et puis, Hospital est vraiment un excellent, je le connais pas, je crois qu'il est un Pyrénéen, hein, qui a remporté tous les prix et qui se dédie à ce genre de musique.
Ah, il ne fait pas partie de l'Académie des Beaux-Arts, mais vous le côtoyez quand même. Il s'appelle Benabar.
Ah oui, Benabar.
Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Une forte tête blonde termine sous la menace ses minuscules dés de viande en faisant la grimace. Il en donne un sur deux au chien, moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Le bébé en bout de table sur sa chaise d'arbitre surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Dire dire qu'on vénère tellement ce petit incontinent. Ta grand-mère l'embrasse en rital, je vous jure que c'est mieux avec l'accent. Ça me rappelle quand on était gamin, on faisait nos prières en italien. J'ai longtemps cru que Dieu était rital, mais maintenant je sais bien qu'il est américain. En fait des lunes de sel pour aspirer les taches de vin rouge renversé et les sujets qui fâchent. Les vieux souvenirs de vacances roulent sur la nappe, les miettes de pain, les blagues plutôt grivoises, salomantes entre les bouteilles de vin. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. La prune, la poire, la cerise, on va siroter tout le verger. Le grand-père sort les cigares et se les fait tous taxer. Morceaux de sucre dans l'alcool, raffinement de gastronome. C'est la chasse aux canards dans le mar de Bourgogne.
Les repas
le dimanche midi,
comme
je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie, en petite monnaie.
Alors Adrien Goetz, quand vous croisez Benabar, que vous dites-vous?
Je l'ai croisé quand j'ai travaillé sur Le Cousin Ponce de Balzac. J'ai fait l'édition en folio classique. Et j'ai voulu montrer au groupe des amis de la maison de Balzac, au cercle des Balzaciens, et puis toute la petite troupe qui vient travailler à la maison de Balzac. J'ai voulu leur montrer les manuscrits qui sont le trésor de la bibliothèque de l'Institut de France. C'est la donation du vicomte de Spelberg de Lovinjoul. Et il y a le manuscrit du Cousin Ponce. Et là est arrivé avec le groupe Benabar. Parce que cette phrase qui est devenue votre devise, là vous l'avez en tête, « Lingot du bonheur, on peut le débiter en petite monnaie », je ne sais plus qui disait, chante Benabar,
et
c'est Balzac. Je ne sais plus qui c'est Balzac, et Benabar connaît à la perfection la comédie humaine, connaît Balzac, et on a sorti le manuscrit, il était très intéressé. On a vu que cette phrase-là est une sorte de paperole que Balzac a ajoutée à la fin sur son manuscrit, il l'a photographiée, il m'a dit ça va devenir le fond d'écran de mon téléphone. Et c'est Balzac toujours vivant. Et c'est Balzac en musique, et c'est tellement juste que, avant le déjeuner du dimanche, il faut penser que le lingot du bonheur, c'est en petite monnaie qu'on l'apprécie.
Et voilà, on n'écoutera plus cette chanson de la même manière. Merci beaucoup, Adrien Goetz,
d'être
venu dans Musique et moi ce matin. Votre dernier livre s'intitule « Mes musées en liberté, 120 promenades artistiques en France ». Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Claire Lagarde à la réalisation, Stéphane Touvenin à la technique, Maud Nourry, attachée de production. Passez un très bon dimanche sur France Musique, un bon déjeuner aussi. Et la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.